merci de commencer la journée avec France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Alors, heureux, c'était les victoires de la musique classique hier soir. Retour à 7h10 sur les lauréates de cette 23e édition. Et sur ces moments forts, nous serons en direct avec Lucienne Renaudin-Vary, la jeune trompettiste, a remporté la victoire de la révélation instrumentale. Ne l'appelez plus jamais, concert de la loge olympique. Cet orchestre créé il y a un an est contraint de retirer le mot olympique de son nom sur injonction du Comité National Olympique Sportif Français. L'occasion de recevoir son chef et fondateur, Julien Chauvin, le violoniste, est avec nous dès 7h40. Et puis, un concert tous les jours en direct dans la matinale. Dans la session musicale, Nicolas Lafitte reçoit le pianiste Cyril Guillotin. Il sort un double disque avec les mêmes œuvres jouées sur instruments anciens, puis sur instruments moderne. Il est 7h. C'est Nicolas Lafitte qui est au studio 107 de la Maison de la Radio qu'on va rejoindre dans quelques instants. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Baptiste.
Quelque chose me dit qu'on va continuer sur cette conversation instrument moderne, instrument ancien.
Oui, exactement. Je suis avec Cyril Guillotin qui sort un double album chez Evidence. Alors c'est deux fois le même programme. Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin. Une fois sur un piano moderne dans le premier disque et puis sur un piano forte dans le second. Il va nous expliquer tout cela ce matin. Mais avant, il joue en direct. Voici le premier mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven. Cyril Guillotin en direct sur France Musique.
Thank you.
En direct sur France Musique, Cyril Guillotin au piano, il interprétait le premier mouvement de la sonate Quasi una fantasia, la clair de lune de Beethoven. Bonjour Cyril Guillotin.
Bonjour.
Alors le principe de votre disque, donc de ce coffret que vous venez de sortir chez Evidence, c'est d'avoir d'un côté les enregistrements de ce programme Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin au piano moderne, et puis de l'autre côté, c'est d'avoir un second disque où vous êtes au piano forte. Alors on n'a pas de piano forte ici, donc on peut pas faire les comparaisons, mais pour nos auditeurs qui vont acheter ce disque, expliquez-nous un peu à quoi sert cette confrontation et ce qui en ressort.
Cette confrontation, au départ, c'était pas une volonté de disque. Hein. Au départ, c'était une volonté de recherche personnelle fondamentale. Je souhaitais avoir des réponses à des questions que je me posais sur des indications musicales claires, des compositeurs, parfois qui ont disparu des éditions pour faute de technicité sur les pianos et d'évolution moderne des instruments. Et de fil en aiguille est venue cette recherche un peu plus profonde et encore plus profonde, et puis essayer de faire tout un programme sur ces pianos anciens.
Qu'est-ce que vous cherchiez exactement ?
Je cherchais en fait le naturel de certaines expressions, de certains phrasés, de liaisons, de tenues. Vous avez chez Schumann ou chez Beethoven par exemple des accords qui sont très longs, des accords de rondes ou de carrés qui parfois sont assez irréalisables avec les techniques modernes sur les pianos actuels. On a des notes qui tiennent trop longtemps, on a des notes qui deviennent trop importantes par des résonances parasites entre guillemets, chose qui n'existe pas sur les pianos d'époque. Et donc on comprend mieux à ce moment-là pourquoi le compositeur a fait terminer son indication à tel endroit, pourquoi il a mis cette note-là à cet endroit-là alors qu'elle devrait frotter sur nos pianos modernes. Enfin, des questions qui sont réelles sur nos instruments et qui du coup trouvent leur réponse naturelle sur ces pianos.
Ça vous parle, Julien Chauvin?
Oui, absolument. Cyril, on se connaît depuis le lycée, c'est un plaisir de l'entendre, mais c'est absolument une question cruciale, c'est-à-dire que c'est plus soit une vision, soit l'autre. C'est la vision moderne ou la vision ancienne, c'est réfléchir en fait. C'est ce que dit Cyril, c'est à obtenir des questions, obtenir des réponses à des questions qu'on se pose. Et finalement, c'est la démarche la plus intéressante qui soit. C'est-à-dire qu'on cherche, et de toute façon, on ne trouvera pas. On ne trouvera pas ni le son de l'époque, ni la manière. C'est illusoire. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le cheminement. Et je trouve ça vraiment génial, en tout cas, sur un même objet, d'avoir les deux.
Alors voilà, ouais. L'idée au départ, c'était effectivement de pouvoir faire quelques pièces sur l'un, quelques pièces sur l'autre, et puis finalement, on m'a dit non, mais ça s'est déjà fait. Et puis je suis pas pianofortiste. Enfin, je ne me réclame absolument pas d'être pianofortiste.
C'est quoi un pianofortiste, pardon?
Je sais pas. Ils vous le diront mieux que moi. Un pianofortiste, effectivement, travaille tellement sur les pianofortés. Ils se déplacent, ils se partout pour chercher ces pianos anciens. Ils ont ces pianos chez eux par collection. Enfin, il y a une façon de jouer sur ces instruments-là.
La technique est vraiment différente, parce que nous, comme ça, oui. A priori, quand on n'est pas pianiste, on se dit, ou pianofortiste, on se dit, oh ben, c'est un clavier. Et pour l'autre.
Mais c'est vraiment différent. Il y a des pédales.
Hein. Oui, il y a des pédales. Il y en a même beaucoup plus sur les pianos fortés que sur les pianos modernes. Mais si j'avais qu'un exemple à vous donner, enfin, qu'un argument, il y a deux classes au conservatoire différentes entre piano moderne et piano fortiste. C'est pas pour rien. Voilà. C'est une autre façon d'appréhender l'instrument, même techniquement, au niveau
Faites le geste du toucher.
Oui, l'appréhension technique pianistique. On joue pas sur un piano de 1832, comme on joue sur un Steinway moderne. Il y a une résistance clavier qui est inexistante, tout est direct. Il n'y a pas toute cette mécanique incroyable qu'il y a aujourd'hui sur nos pianos modernes qui dilue, qui égalise. Le son est direct. On a quasiment un système de marteau, de levier pur et simple. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi un avantage incroyable qui est que cette musique est plus que vivante. Je disais à un ami l'autre fois, j'ai l'impression qu'on touche un muscle plutôt que de toucher le vêtement, même très moulant, qui peut être sur le muscle. On touche vraiment le muscle de la musique, et ça c'est assez extraordinaire. Sur Chopin, j'ai fait cette rencontre avec ce Pleyel de 1843 qui a été choisi lui-même par Chopin pour le régisseur de Nohant lors de son dernier séjour. Donc c'est un piano plus qu'historique, et on comprend énormément de choses au niveau du tempo, parce que les mains gauches sont obligées d'avancer. On ne peut pas s'étendre comme on peut faire aujourd'hui sur un piano moderne. Il n'y a pas cette notion conceptuelle du son. Le son est organique. Le son, il est vivant. C'est une chair.
C'est beau cette idée de muscle.
Voilà, et ça, du coup, l'idée est de pouvoir essayer de le retrouver sur les pianos modernes, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les uns ou les autres, il y a une filiation, et retrouver des choses par la recherche du toucher, par la recherche du pianiste sur ces instruments permet de pouvoir effectivement trouver un autre monde.
Vous, Julien Chauvin, vous évoquiez tout à l'heure ces instruments d'époque sur lesquels vous jouez. Est-ce que vous pourriez, à l'inverse, jouer avec le quatuor Cambini, donc quatuor d'instruments d'époque, les quatuors, je sais pas, de Ravel, de Debussy, et avec le concert de la loge olympique, de la musique, de Wagner, ou je ne sais quoi?
Oui, absolument. Vous savez, les cordes en boyau, pour prendre juste cet exemple, elles disparaissent vraiment pendant l'entre-deux-guerres. Donc très très tardivement, c'est-à-dire que même Shostakovich, vous pouvez jouer avec des cordes en boyau. Ça, allez le dire à des musiciens russes, mais je veux dire, c'est très tard. Or, contrairement aux archets, et les archets, c'est plutôt début du XXe qui deviennent vraiment très lourds et totalement...
rigides.
Moins flexibles. En effet, quand on va avec le quatuor, on a joué justement les quatuors de Debussy et de Ravel. Mais on reste absolument sur boyau, d'une part. Le diapason est légèrement moins tendu, 438, et avec des archets qui sont, même s'ils sont romantiques, ils sont pratiquement modernes, mais ils sont quand même plus légers. Ils ont quand même une flexibilité et un moelleux, c'est surtout ça. Quand je retourne à l'archet moderne, c'est vraiment cette sensation de non-flexibilité, de dureté qui parfois est un petit peu difficile à gérer.
Allez, on va écouter à nouveau Cyril Guillotin. Je ne savais pas que vous étiez ensemble au lycée.
Ah bah attendez,
il y a des sacrées rencontres.
Tout est fait exprès, voyons.
Cyril Guillotin qui joue la sonate, le nocturne numéro 20, opus posthume de Frédéric Chopin. Cyril Guillotin. Thank you. Le célèbre nocturne opus posthume en ut dièse mineur par Cyril Guillotin au piano.
France Musique.
Avec nous Cyril Guillotin au piano et Julien Chauvin. Peut-être un jour un duo. Vous avez déjà joué en duo d'ailleurs?
On avait fait le 500, hein, le
Carnaval.
Oui, il y a très longtemps. Mais non, avec plaisir, ce serait une bonne idée.
Super. Ce serait super.
Alors, je crois que Cyril Guillotin, d'ailleurs, vous avez eu comme maître, comme professeur Brigitte Engerer.
Oui.
Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Nicolas. Vous, Julien Chauvin, c'est qui les figures marquantes, celles qui vous ont inculqué les grands principes de cette musique?
Il y a plusieurs choses. Bon, moi, c'était pas un maître, c'était une maîtresse, mais il se trouve que, voilà, je disais avec Jérôme Pernaud, qui a été mon mentor à un moment, mais il m'a permis de partir, de m'échapper en Hollande. À La Haye, où j'ai vécu pendant 5 ans et où j'ai étudié avec Vera Beth, qui est une femme violoniste exceptionnelle, qui a été la femme...
Qui fait partie maintenant de votre quatuor?
Non, Vera Beth, c'est la femme d'Aner Bilsma et qui a fondé, elle, l'Arkiboudeli. Donc c'est cet ensemble mythique pour moi, qui a fait des enregistrements incroyables du Nocturne de Mendelssohn, du quintet de Schubert, de
Haydn aussi, dont on parlait tout à l'heure.
Haydn, beaucoup de choses, les quintettes de Zalto de Mozart. Et c'est vrai que voilà, ce sont deux personnalités qui ont véritablement façonné ma vision de la musique et que je m'emploie à aller voir, à retourner voir chaque année pour prendre un bain d'humilité, un bain de voilà de je vais dans leur maison qui respire la musique à tous les étages et ça me permet de me recentrer en tout cas chaque année.
Et Aner Bilsma, pourquoi il s'est mis à la musique ancienne? Tiens, c'est notre archive du jour.
Je me rappelle que c'était une période de transition. Nous avons joué toujours les instruments modernes, mais nous n'étions plus heureux. On a commencé de faire toutes sortes d'expériments pour retrouver le style et aussi l'époque de, disons, Telemann. Et je me rappelle qu'à la fin de du disque Telemann, la dernière soirée au studio, il entrait un jeune homme. Et quand nous avons joué la dernière note, Franz Brugge a fait un geste avec la flûte d'argent, donnant la flûte au jeune homme qui avait entré parce qu'il avait déjà vendu son flûte moderne.
Vous, Julien Chauvin, vous avez vendu votre violon moderne. Vous, Cyril Guillotin, vous allez vendre votre piano classique.
J'ai plus d'archet moderne, personnellement.
Moi, j'ai encore mon piano classique. Hein, mais,
mais ça va venir.
Ouais, mais il vieillit bien.
Cyril, on parlait justement des personnalités qui ont marqué le parcours de Julien Chauvin. Vous avez travaillé avec Brigitte Engerer, vous avez aussi travaillé avec Aldo Ciccolini. Vous pensez à eux avant de monter en scène? Vous pensez à eux avant d'enregistrer un disque?
Tout le temps. Tout le temps, oui, tout le temps. Quand je joue, quand je sens une inspiration, quand il y a un petit moment magique qui se passe sur scène, ils sont toujours présents avec moi. Oui.
Je vais vous demander de rejoindre le piano. Cyril Guillotin, on va vous écouter à nouveau jouer. Vous allez nous interpréter un extrait de votre premier disque. Ce premier disque qui était d'ailleurs un disque France Musique. Je perds mes pages. Voici La danse de la fée dragée, extrait de Casse-noisette, Tchaïkovski. Évidemment, dans une pas réduction, comment on appelle ça?
Transcription.
Oh, transcription, merci, je perds mes mots ce matin. Pletnev. Cyril Guillotin. Thank you. La danse de la fée dragée, extrait de Casse-Noisette, Tchaïkovski par Cyril Guillotin au piano. Cyril Guillotin, vous avez fondé l'association Les Classiques Buissonnières. C'est une association qui a pour but de porter la musique un peu partout, mais surtout là où on ne l'attend pas. Où est-ce qu'on ne l'attend pas, cette musique classique?
Ah bah là, par exemple, on ne l'attend pas là où on va la mettre dans quelques semaines de cela, dans un domaine viticole, par exemple. Voilà,
On s'est marié les plaisirs.
Oh bah oui, mais de toute façon, je pense qu'un artiste est quelqu'un qui aime les choses bonnes. Nous allons créer le premier festival Ma Vigne en Musique, près de Narbonne, dans le week-end du 9 au 10 avril. Où j'aurai moi la chance de jouer au Palais des Archevêques le samedi 9 sur des pianos anciens, sur deux des trois pianos de Heldunkel d'ailleurs, le fameux Chopin, le fameux Pleyel pardon de Chopin, de l'Apsus, c'est intéressant, et le Erard de 1894 sur lequel j'ai enregistré le Schumann et le Beethoven avec un piano évidemment moderne, tous ces pianos venant de chez Gérard Fauvin qui est le restaurateur génial chez qui j'ai enregistré.
Mais Cyril, concrètement, d'après ce que je comprends, les classiques buissonnières, c'est aussi pour aller vers un public qui ne va pas forcément dans les salles de concerts classiques.
Mais exactement.
Ou qui n'ont jamais entendu musique classique.
Exactement. Et donc, on va aussi dans les villages. On fait des séances auprès des scolaires, dans les écoles primaires auparavant. Donc, on invitera les écoles primaires de la ville de Narbonne. Et on les invitera le lendemain à venir écouter un pianiste extraordinaire qui est Jean-Marc Luisada, qui nous fait l'amitié de pouvoir venir pour cette première édition. Donc, jouer au milieu des fûts de chêne. voilà.
Vous aussi, Julien Chauvin, vous investissez dans le travail auprès des jeunes pour les guider vers la musique et pas juste leur montrer des concerts comme
oui,
ça.
Oui, absolument. Il y a diverses actions qu'on mène. Et notamment, l'année prochaine, on va monter un opéra de Sacchini, le Cid, Chimène ou le Cid de Sacchini. Sacchini qui était le compositeur préféré de Marie-Antoinette. Et on va monter cette production d'opéra avec Sandrine Anglade, avec l'Arcal et le CMBV. Et un des fondements de l'Arcal, c'est de donner à entendre de l'opéra à des jeunes et à un public qui n'en a pas forcément l'habitude. Et donc de jouer dans des salles en France qui ne sont pas forcément faites pour ça. Et là, d'ailleurs, le dispositif sera assez intéressant puisque tout l'orchestre sera sur scène avec les chanteurs. Donc, une possibilité de plus de donner de l'opéra dans des salles qui ne s'y prêtent pas.
Et puis, alors, le classique, là où on ne l'attend pas, ou en tout cas, un orchestre et un chef, j'ai vu que vous allez dans un institut de cours de management. Vous donnez des cours de management. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Peut-être vous connaissez l'INSEAD, qui est une des trois plus grandes écoles de voilà, j'emploie un mot, business et de management, un mot horrible à nos oreilles.
Qu'est-ce que vous leur faites faire de la musique?
C'est pas sale, Julie.
Alors, non, on fait un cours de 3h30 à ces jeunes, à ces participants qui passent un mois dans ce campus de l'INSEAD à Fontainebleau, et avec le professeur Ian Woodward, australien féru de musique et chef d'orchestre amateur, on fait un cours sur les parallèles entre la direction d'une entreprise et la gestion d'un orchestre. Et pour ces participants, d'ailleurs on a eu Arnaud Montebourg il y a un an et demi quand il avait fait sa sa session. D'ailleurs il a dirigé l'orchestre il y a un an et demi. C'est absolument fascinant pour les participants parce que ils sont au cœur du dispositif de l'orchestre. Ils sont vraiment quand je dis au cœur, ils sont vraiment au coude à coude. C'est-à-dire que l'orchestre est réparti et on a 80 participants qui sont autour de nous. Et donc là, ils vivent des expériences auditives exceptionnelles. Et donc, en les déplaçant aussi, ils se rendent compte de quand ils sont à côté de la contrebasse ou des cors, c'est pas le même effet que quand ils sont devant. Et donc, les liens, les parallèles sont absolument géniaux.
Vous allez refaire ça
On le fait trois fois par an à l'INSEAD et on va le développer, en effet, avec des différentes écoles de management.
Ça me donne une idée de reportage. Merci. Julien Chauvin, vous écoutez France Musique, il est 8h50, voici notre fée dragée à nous, Skéré. Est-ce que vous êtes au courant de cette polémique dont on parlait en début d'heure avec Julien Chauvin? Il ne peut plus appeler son concert de la loge olympique puisque le Comité national olympique lui enjoint d'enlever ce mot olympique. Vous avez signé la pétition, Cyril Guillotin?
Non, mais je vais lui demander là. Non, c'est assez scandaleux quand même. Enfin, je suis bien au courant effectivement de ce problème-là. C'est la première chose dont on a parlé lorsqu'on s'est croisé dans les couloirs de Radio France. Et je suis content que les choses commencent à bouger, qu'il y ait des personnes,
en tout cas, il y a beaucoup de soutien.
Voilà, qu'il y ait des personnes et non des moindres qui prennent un soutien ostensible pour Julien, parce que c'est une affaire incroyable.
C'est surtout qu'il faut, c'est un soutien au-delà de moi. C'est ma cause musicale, elle est petite. Il y a deux choses, c'est l'histoire de la musique qu'on renie en fait, parce que cet orchestre, il a été créé en 1783, je le répète, donc c'est un pan de l'histoire de la musique qu'on renie, et autre chose, c'est une cause plus grande, c'est que c'est des mots du dictionnaire qu'on peut tout d'un coup privatiser.
Et vous êtes soutenu d'ailleurs par des académiciens.
Absolument.
Si on veut vous soutenir, on rappelle le nom du site.
Alors,
pour signer une pétition.
Absolument, oui. Il y a tout sur sauverlaloge.com. Il y a une pétition, il y a des caricatures de dessins, en dessin, il y a tout ce qu'il faut.
Merci Julien Chauvin.
Vous irez, Cyril, hein?
Dès que je sors.
Sauverlaloge.
Je récupère mon portable.
Cyril, votre disque paraît chez Évidence, Clair Obscur, ce disque magnifique où on retrouve donc deux CD, un sur piano moderne, un sur piano forte, avec un programme Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin. Et puis on vous retrouve au Petit Palais à Paris le 16 mars, le 19 mars à Carcassonne, le 9 avril à Narbonne. Toutes les dates sont sur notre site internet francemusique.fr à la page de matinale culturelle.
Je peux juste préciser une petite chose, c'est que le 16 mars, on aura la présence exceptionnelle du Steingräber, sur lequel j'ai enregistré avec les deux systèmes de pédales Sordino et Mozart demi-chasse.
Julien Chauvin, merci d'être venu avec nous.
Merci beaucoup.
Le Quatuor Cambini, c'est en concert un peu partout. On va sur le site, on voit les dates. C'est le dernier disque, c'était Félicien David. Magnifique disque. Et puis, côté concert de la Loge Harmonique, on pourra vous entendre notamment dans le Stabat Mater de Boccherini.
Olympique.
Qu'est-ce que j'ai raconté? Le concert de la Loge Harmonique, c'est pas mal.
J'ai croisé.
C'est une idée.
On vous entendra à Arles le 20 mars, à Puteaux le 30 avril, La Chaise Dieu le 25 août. Dernier choix musical, Evry Glitlis, Léo Ferré, Les Étrangers.